Bonjour à toutes et à tous, bonjour et bienvenue dans la cinquième de couve, l'émission de débat autour du manga. Aujourd'hui, des séries courtes, des toutes petites séries pour des tout petits budgets. Oui, on vous propose une sélection plus ou moins old school, surtout plus de séries que vous avez peut-être ratées. En effet, souvent dans les commentaires, on voit des messages du type « Je me suis remis au manga il y a 3 ans » ou alors « J'ai pas l'énergie pour me lancer dans des longues séries avec le quotidien, le boulot » et bien voilà. Voilà, c'est aussi pour ça et c'est aussi pour vous qu'est fait cette émission. Et donc, une série courte que vous avez ratée. Qu'est-ce que c'est ? C'est une série qu'on a fixée à 5 tomes maximum. Fallait bien mettre une limite, c'était 5. Et c'est une série qui n'est pas unanimement reconnue comme un chef-d'œuvre intemporel, sinon vous ne l'auriez pas ratée. Et évidemment. Mais on n'est pas allé non plus dans des territoires trop méconnus, vous allez voir ça. Et on se retrouve avec une sélection quasiment full pré-5ème de couve. L'ère pré-5ème de couve, ouais. Vous voyez, c'est X années avant, voilà, vous voyez très bien ce que là où vous voulez en venir. Avec donc des choses antérieures à 2016, sauf une seule série. Vous, à quoi vous pensez quand on vous dit série courte, là tout de suite? Vous dites série stoppée par l'éditeur, vous dites quoi?
Moi je pense à Moto Hagio, voilà.
Quand je pense à séries courtes, je pense à séries pratiques, en fait, parce que pendant très longtemps, au final, moi, les séries courtes, ça me plaisait pas plus que ça, parce que je me rendais compte que la plupart des séries que j'adorais, tu vois, que ça soit Naruto ou autre, c'était toujours des séries longues. Donc, le fait que la série soit courte, ça a jamais été un vrai indicateur pour moi de est-ce que j'ai envie de lâcher ou pas. Par contre, j'ai toujours trouvé que quand je voulais mettre quelqu'un au manga, bah, la série courte est hyper pratique. Et effectivement, j'adorerais te faire commencer par Naruto, on va dire, mais ça sera peut-être plus simple si je le fais démarrer par une série de 4 tomes si t'as jamais lu de manga.
Et du frère jumeau de
Kishimoto. Mais par contre, maintenant, de plus en plus, je suis vraiment ouvert à tomber sur des récits. Alors pour moi, ça peut être du diptyque, tu vois, même 2 tomes, ça, c'est ce que j'appelle une série courte aussi. Et j'y vais même avec plaisir, et surtout quand c'est dans le genre policier, par exemple.
5 séries courtes que vous avez ratées sont au programme de la 5ème de couve aujourd'hui.
On ne pousse pas, s'il vous plaît, on ne pousse pas, c'est inutile. Le public n'est pas autorisé à assister aux épreuves éliminatoires.
Moi, je crois que je pourrais être un très bon ninja.
À quoi vous jouez? L'heure est grave, c'est pas le moment de faire les guignols.
Mais on n'a rien d'autre à faire, on peut pas sortir.
On va leur faire notre attaque secrète, l'attaque de la tour Eiffel, ils vont rien comprendre.
Et il faudra aussi parler des dessins animés, notamment des dessins animés japonais qui sont exécrables, quoi, qui sont terribles.
Oh, les bâtards! Oh, this new crazy mother...
Vous êtes en train d'écouter la 5ème de couve, le seul podcast où l'on peut découper, charcuter, dépecer, aimer les séries courtes, toutes petites séries en manga. Bonjour Julie, bonjour Cagnard.
Salut.
Vous êtes bien en forme aujourd'hui?
Ouais.
En forme, petite foulée, petite série courte, oui, on est dans le rythme.
Ok, très bien. Si vous nous découvrez seulement maintenant, nous sommes la 5ème de couve, le podcast manga hebdo depuis 10 ans, donc scrollez. Dans vos applications podcast, il y aura toujours une émission pour vous. Et merci à tous de nous écouter, de nous soutenir en partageant, en commentant et en écoutant et en réécoutant les émissions. Merci à vous. Le programme de cette émission, c'est Chasse aux cadavres, qui sera en fin d'émission, qui est la série la plus récente de ce qu'on vous propose aujourd'hui. On va aussi parler de Crimson Wolf, on va parler de All You Need Is Kill, on va parler du manga Le mari de mon frère, et on commence maintenant avec une série en 2 tomes qui s'appelle Dédale, sortie aux éditions Doki Doki, signée Takamichi, un diptyque donc, qui était sorti en 2013 au Japon et en 2016 en France. Dédale, on est entre un survival et un isekai qui nous emporte dans l'univers du gaming. Ça se passe au Japon à travers les yeux de deux héroïnes. Elles sont testeuses de jeux vidéo dans la vie. Du jour au lendemain, elles se retrouvent propulsées dans un monde vidéoludique, mais aux aspects vraiment réels. Et ce nouveau monde doit donc être débugué. Et c'est elles qui doivent s'en occuper. Et surtout, elles doivent aussi survivre. En plus de débugger ce monde, c'est le manga gaming par excellence. Bien avant Shangri-La Frontière, l'auteur Takamichi s'était beaucoup inspiré de Portal 2, qui était sorti 2 ans avant, en 2011. Là, je commence à remonter, il y a très loin, en 2011. Portal 2, qui était la suite du Portal 1, et qui avait gagné pas mal de prix au Japon, qui avait eu le Daruma aussi en France, qui a eu donc un beau petit succès finalement, Dédale.
Et Portal qui est connu d'ailleurs pour l'inventivité de ses joueurs, c'est-à-dire que t'as le jeu qui existe en tant que tel, mais justement ce fait de créer des portails, ça a amené les joueurs de Portal à essayer de créer des nouveaux records. Il y a pas mal de vidéos YouTube là-dessus, et la communauté Portal, elle fait déjà preuve d'une très grande créativité qui, je pense, on retrouve beaucoup dans Dédale.
Donc Dédale, le manga pour fans de jeux vidéo en seulement 2 tomes.
Oui, c'est ça, exactement. Et comme c'est un des trucs que je préfère avec ce manga, c'est comme quoi tu peux faire un manga de jeux vidéo sans forcément invoquer de la grosse rêve fanservice qui tâche. Là, l'auteur, il s'est vraiment concentré uniquement sur le gameplay, les mécaniques du jeu, encore une fois, comme Portal. Et je trouve que c'est ce qui fait tout le sel de cet univers. Moi, je ne suis pas un grand gamer, vraiment loin, loin de là. Et pourtant, j'ai capté que là, il y avait une différence. On n'utilisait pas ma fibre de gamer. Mais en fait, si, on utilise carrément ma fibre de gamer, mais pas par rapport à mes refs, par rapport à mes réflexes de joueur. Et d'ailleurs, quand tu commences ce tome 1, c'est littéralement comme si tu commençais un jeu vidéo. Quand tu démarres dans un jeu vidéo comme ça, bah, tu vas tester des trucs, tu découvres un peu l'environnement, tu regardes les objets que tu as sur toi, et évidemment, tout de suite, tu vas aller voir les possibilités. Ah bah non, là, il fallait pas sauter de cette falaise, t'es mort maintenant. Eh ben, le manga, il se passe exactement comme ça. Les deux héroïnes, elles poussent le curseur et les limites de cet univers qu'il aurait imposé, et c'est ça qui montre toute l'inventivité de l'auteur, parce qu'en plus, tous les bugs qu'elles vont réussir à utiliser, ça part souvent d'objets du quotidien qu'elles vont découvrir dans le monde.
Monde qui est ouvert. C'est l'intérêt même du début de ce manga, c'est qu'on est dans un monde ouvert qui est très typique du jeu vidéo. Et ce que j'aime bien avec les mondes ouverts, c'est que c'est très chouette en termes de curiosité. C'est-à-dire que quand tu joues à Zelda version monde ouvert, tu peux passer 3 heures à pêcher. Et bah là, t'as l'impression que dans ce manga, elle pourrait faire ça. Alors pas pêcher, parce que là, il n'y a pas de lac avec des poissons attrapés, mais t'as vraiment l'impression qu'elle pourrait passer des jours et des heures à faire la même chose, à faire une sorte de métier, à rencontrer des PNJ. Enfin, t'as vraiment ce sentiment-là de tout les possibles, avec beaucoup de curiosité que tu peux avoir dans un sens, dans un autre. C'est ça que j'aime bien.
Mais oui, t'as raison. Et en plus, tu dis que c'est un monde ouvert. Et en même temps, le récit, il joue beaucoup sur les trucs du huis clos. Parce qu'elles sont que deux. Et y a des monstres aussi dans cet univers. Et pourtant, c'est quand même à ciel ouvert. Elles voient de la forêt. Et d'ailleurs, je sais même pas si on peut dire que c'est vraiment un monde ouvert. Ou si on n'est pas plutôt dans un jeu type bac à sable. Qui sont des types de jeux qui sont vachement à la mode. Comme Minecraft, exactement. Ou Roblox. Et tu vois, là, dans le bouquin, il n'y a pas de grosse flèche rouge qui t'indique l'intrigue, tu vois, genre le boss, il est là, c'est là-bas qu'il faut aller. Là, en fait, c'est elles qui doivent parcourir le monde, comme tu dis, et en fait, au début, elles n'ont même pas forcément de mission, si ce n'est sortir de ce monde. Et encore, il y en a une des deux qui n'est pas très partante pour sortir de l'univers. Et je trouve que ça aussi, c'est une vraie traduction du langage gaming dans un manga.
Bah, la première mission quête de langage gaming, c'est quand elle découvre le mot sur la table, tu sais, au début.
Oui.
Et c'est vraiment la première quête, quoi, et qui n'arrive pas tout de suite au début du manga, en plus.
Bah, au final, la véritable quête, parce que, alors là, on utilise beaucoup le langage du jeu vidéo, mais en fait, le scénario, il est un peu plus complexe que du simple jeu vidéo. Et du coup, ça aussi, c'est hyper intéressant, parce que je trouve que l'auteur, il ne s'est pas appuyé uniquement sur ses mécanismes de jeu. Tu prends de la puissance, tu vas devenir plus puissant. Bon,
non, ça, c'est Shangri-La, par exemple.
Ça, c'est Shangri-La de la Frontière, qui est un titre que je ne déteste pas pour autant. Mais là, clairement, sur Dédale, je trouve qu'on est sur un titre qui est beaucoup plus intelligent et qui amène le média jeu vidéo d'une manière qui est très originale et pourtant une manière qui est hyper positive aussi. Il y a vraiment une énergie dans ce manga, dans les interactions entre les deux personnages. Il y a un truc qui se passe, tu te sens bien avec elle, quoi.
Et dans l'humour aussi, puisque plusieurs remarques à un moment donné, et même moi ça me faisait rire, il y a une des deux héroïnes qui pique des trucs dans toutes les pièces.
Oui.
Tu sais, elle est vraiment kleptomane à fond, elle arrête pas, elle peut pas s'empêcher de piquer des trucs. Et moi, ça m'a replongé dans mon comportement de gamer.
Bah évidemment, tu vois un coffre.
Tu l'ouvres.
T'as pas demandé à qui c'était le truc qu'il y avait dedans, tu vois.
Tu vois une épée par terre, tu la ramasses. Ouais. Et en fait, tu fais pareil. Mais c'est juste que.
Elle a fait ça dans la vraie vie.
Enfin, moi, dans la vraie vie. Que... Dans la vraie vie de ce monde
oui,
étrange.
Mais justement, je pense que même dans la vraie vie, elle se comporterait comme ça aussi.
Je suis pas sûr. Tu crois qu'elle est kleptomane de A à Z?
Bah, non, mais comme dans un, elle se comporte comme dans un jeu vidéo, quoi, au final.
Oui, oui. Mais là, en l'occurrence, elle est dans un monde qui ressemble à un jeu vidéo qu'elle doit débugger.
Et elle a besoin de ressources, là aussi. Mineur.
Et en plus, elle a besoin de ressources. Mais le vrai sujet du jeu, en fait, c'est pas ça. Hein.
Bah non,
le vrai
c'est
sujet,
pas vraiment ça.
C'est les bugs. Ouais, ça dénonce. On en a marre des bugs dans les jeux vidéo. Enfin, en 2013, pardon. On en avait marre des bugs dans les jeux vidéo. Et moi, je pense que c'est ça, ce que l'auteur dit.
Ah bon?
Ouais.
Parce que moi je trouve que c'est une déclaration d'amour aux bugs qu'il y a dans les jeux vidéo. Quand tu vois justement les deux, enfin peut-être pas les deux personnages au même niveau, mais il y en a quand même une qui adore les bugs. Et d'ailleurs quand elle a le créateur du jeu vidéo en ligne, c'est le premier truc dont elle parle, c'est les bugs. Et je trouve que, alors évidemment, moi en tant que gamer, tu me mets un bug, ça y est, c'est bon, je suis mort. Le jeu, je le jette par la fenêtre, littéralement. Mais je vois bien avec la communauté de jeux vidéo à quel point les bugs sont utilisés comme dans le speedrunning en jeu vidéo où justement bah t'as du speedrunning ou t'as du speedrun où t'as le droit d'utiliser des bugs, d'autres où t'as pas le droit d'utiliser les bugs. Enfin c'est un vrai sujet dans le jeu vidéo, les bugs.
Mais ça m'a fait rire de voir autant de sujets autour du bug, sachant que c'est un auteur qui vient du monde du jeu vidéo, hein, Takamichi. Et scénaristiquement il s'en sort quand même super bien parce que il y a le piège quand tu commence avec une bonne idée et d'avoir très peu de chapitres, de te dire bon bah ça va être la même chose tout le temps, puis quand on doit finir on se speed justement et on termine le manga. Mais là il a à l'inverse fait vraiment deux actes, t'as vraiment deux parties, t'as le tome 1 qui se stoppe on va dire dans ce monde et le tome 2 qui commence vers autre chose. Tout se rejoint, mais il y a vraiment deux actes.
Oui, il y a vraiment deux actes. Et en plus, si tu regardes la progression du récit, je trouve qu'elle est exigeante au niveau du lecteur, encore une fois, à la manière d'un joueur. C'est-à-dire que dans la deuxième partie, les règles du monde qu'on t'explique, elles sont quand même plus compliquées que les règles qu'il y a dans la première partie.
Ah, on te remet des niveaux de,
ouais,
de
voilà,
complexité.
De,
hein.
Et je trouve que limite, il y a un petit côté hard SF là-dedans, tu vois. Alors, c'est pas de la, enfin, si, quelque part, c'est complètement de la SF même. Mais il y a un petit côté, ah putain, c'est un vrai geek. Et du coup, même en tant que lecteur, il te force à progresser. Alors, les règles de base de l'univers, tu les comprends assez simplement. On va pas parler de didacticiel, mais quasiment. Et dans cette deuxième partie, par contre, là, on rentre dans le dur vraiment des règles de l'univers et des règles de jeux vidéo qu'on peut détourner. Parce que c'est ça le sujet de tout ce manga, c'est comment détourner les bugs et les règles d'un monde.
Et ce qui rend le manga assez complet au final, c'est qu'on n'a que deux personnages. Enfin, on en a d'autres qui vont passer vite fait, mais on n'a vraiment que deux personnages, donc il n'a pas besoin de temps, de chapitres en plus, de trop de flashbacks pour nous parler de 1000 personnages. Et ça tient du coup en deux tomes de manière très complète.
Ouais, et au final, t'en sais pas tant que ça sur ces deux personnages. Et ce qui est assez intéressant, c'est
t'as
que...
T'as quelques petites infos.
T'as des petits flashbacks, vite fait, des petites infos qui arrivent, qui te permettent de comprendre un petit peu mieux le caractère. Donc ça les ancre quand même dans le récit. Et de l'autre côté, c'est marrant parce que je peux pas m'empêcher de voir le créateur de jeux vidéo avec qui elles vont discuter à un moment, qui lui explique très clairement que dans ces jeux vidéo, ces personnages n'ont aucun fond. Il le dit lui-même parce que, d'une part, ça permet aux joueurs de mieux s'identifier et de rentrer. Et d'autre part, c'est pour lui que ça fait partie de l'expérience qu'il faut pas trop personnifier ses personnages. Alors que je trouve que c'est quand même ce qu'il fait. Dans le manga, il les personnifie quand même.
Et en plus, à la fin, on a les réponses et elles sont... Il y a une fin qui est complète.
Oui, complètement. Il y a une fin.
On sait le pourquoi du comment. On a... toutes les réponses, a priori.
On a même le quelques mois plus tard, après. Donc franchement, le récit, il est mené de A à Z. Et je trouve que c'est vraiment une petite pépite qu'on oublie un petit peu trop souvent, Dédale.
Ça s'appelle donc Dédale aux éditions Doki Doki. Ça existe soit en deux volumes, ou sinon, en 2024, il y a une intégrale qui était sortie en un seul volume, du coup.
Une belle intégrale grand format.
Ouais, couverture cartonnée,
ouais, couverture rigide.
Exactement. Manga suivant. On parle d'un manga qui s'appelle Le mari de mon frère, qui s'est sorti aux éditions Akata, qui fait 4 tomes en France. C'est sorti en 2016. Au Japon, ça date de 2014. C'est signé Gengoro Tagame. dans le mari de mon frère, on est de nos jours hein, au Japon, enfin de nos jours de cette époque-là, d'il y a 10 ans, et un Canadien débarque dans la maison de Yaichi en lui disant « Salut, je m'appelle Mike et je suis le mari de ton défunt frère ». Une entrée en matière qui est assez surprenante hein, pour cette famille monoparentale japonaise. Et ainsi, Mike va rester squatté chez lui, il squatte hein, vraiment, et se lier d'amitié avec son beau-frère, mais aussi avec sa petite nièce Kana. Et pendant un moment, je me suis dit « Mais... quel gros squatteur ce Mike!
Hey, mais c'est pas le pide de Olive et Tom? Tu sais, le père d'Olive, c'est ce qui aurait pu se passer, tu vois.
C'est vrai. Mais non, l'ambiance est totalement différente. Il a pas de vis pour le coup, Mike. Il est très sympa. Mais à un moment donné, je me suis dit, mais vraiment? J'oserais pas, moi, me débarquer comme ça chez quelqu'un. J'ai resté 3 semaines. Tu vois, finalement, le manga s'étale sur 4 tomes, ce qui correspond à 3 semaines dans l'histoire. Et ils font plein de trucs en plus en 3 semaines, mais qui ont l'air trop, trop cool. Il y a plein de moments où j'avais envie d'être avec eux. Mais je me dis, mais quel squatter quand même.
Bah après, je pense qu'il y a... comment dire ils ont convenu quand même qu'il viendrait à la rencontre de sa belle famille qu'il n'a jamais vue. Donc c'est le frère jumeau de Yaichi qui était son frère, son mari, pardon. C'est Ryoji. Et effectivement, tout ça revient par petits flashbacks au fil des 4 tomes. Et effectivement, au début, on se dit « Waouh, le choc entre les deux cultures est quand même assez violent. »
Il revient nommément parce qu'en fait, il n'y a pas de vraie scène flashback où on le voit agir dans son quotidien avec Mike. Il y a quelques petites bribes, mais sinon, juste, ils en parlent entre eux, quoi.
Oui, enfin, je parlais plutôt du ressenti en fait du frère donc de Yaichi qui en fait a oublié parce que son frère est parti vivre au Canada sans l'en avertir. Il savait juste que effectivement il était homosexuel et il a eu très très peu d'écho en fait de la vie de son frère à l'autre bout du monde et donc il voit débarquer effectivement un inconnu qui est Mike et qui apporte avec lui toute une culture pas seulement canadienne mais aussi toute une culture LGBT en fait
et occidentale au sens plus large. Et donc on a une famille avec Yaichi qui est donc le frère jumeau, son beau-frère Mike qui vient vivre 3 semaines chez lui, et donc la petite Kana, dont il s'occupe parce qu'il est, pas père au foyer, parce qu'il est rentier, mais il est une sorte de rentier. Mais voilà, on est sur une famille vraiment très inhabituelle.
Oui, complètement. Et à vrai dire, je pense que le mari de mon frère, ça avait quand même fait un peu de bruit à l'époque quand c'était sorti en France, parce que c'était un titre pionnier dans l'édition française de manga, parce que ça évoquait vraiment très ouvertement les questions à la fois d'homosexualité, d'homoparentalité, de famille recomposée finalement. Et c'était pas quelque chose auquel on était habitué déjà, on va dire, dans la littérature tout court, enfin même dans les divertissements, tout ça. Et en plus, venant d'un manga une culture qui est généralement représentée comme étant assez conservatrice, quoi.
Et on a donc ce personnage de Yaichi, qui est donc le personnage central, hein, finalement, Mike et Kana tournent autour de lui, qui est rempli de contradictions de A à Z. Déjà, il voit Mike arriver, il est toujours en train de penser, ça disparaît au fur et à mesure des tomes, où ça réapparaît par moments. On le voit où il s'imagine des scènes et de choses qu'il pourrait répondre, qui sont un petit peu plus franches du collier. Et on voit la réalité où il fait « oui, oui, très bien ».
Ouais, mais alors moi j'adore ces passages-là parce que je me dis, en fait, c'est très honnête dans le sens où je pense que Gengoro Takame, il a essayé de vraiment montrer le fond du problème de la culture japonaise où il faut toujours faire bonne figure, il faut toujours répondre sans froisser tes interlocuteurs, il faut aller dans le sens qu'on te propose pour, même si tu dois faire passer tes idées, il faut trouver un chemin à travers les hésitations émotion en fait que tu perçois chez quelqu'un d'autre. Et il y a une scène particulièrement plutôt vers la fin de la série, je crois que c'est dans le tome 4, où il y a un professeur qui est
toi
un
aussi
peu...
c'est ta scène préférée.
Bah oui, parce que là tu vois le résultat en fait de cette exposition pendant 3 semaines à un autre, à une autre culture, à une autre une autre façon de voir le monde et de vivre le monde. Et c'est vrai que c'est chouette de voir ce genre de discours quand même.
Juste pour sans totalement la dévoiler, mais c'est une scène où donc Yaichi se fait convoquer par le professeur, l'instituteur de sa fille, pour lui dire qu'elle a des réactions bizarres en ce moment, ou en tout cas que lui trouve bizarre.
Oui, pas adapté.
Mmh. Et il lui fait une réponse aux petits oignons. C'est magnifique, c'est très bien traduit. En plus, ça rend super bien. J'adore cette scène. C'est quand même vraiment une de mes scènes préférées où je me suis dit, ouais, vas-y, mon gars.
Ouais, bah oui, parce que t'as envie, effectivement, qu'il soit en train. En fait, c'est ce que tu disais, Mister Contradiction est en fait en train de passer outre ces contradictions et d'accepter, Mike, d'accepter sa vie avec un beau-frère étranger et gay.
Et donc, ce manga, est-ce que c'est un récit social, sociétal ou un récit de deuil? Parce que finalement, de A à Z, et c'est quasiment même une des scènes de fin, il est question du deuil.
C'est un peu tout à la fois, hein. Et puis c'est de la tranche de vie, vraiment, il y a plein d'émotions qui passent. Toi, tu disais, ils passent énormément de temps ensemble, ils font visiter... le Japon, ou en tout cas ils permettent à Mike de tester aussi la vie japonaise. Il l'emmène au bain, ils vont manger certaines spécialités avec lui. Enfin,
il mange vraiment beaucoup.
Oui, et il mange bien. Et d'ailleurs, l'un des derniers titres, une des dernières séries, c'est autour de la cuisine. Une des dernières séries de Gengoro Tagame est autour de la cuisine. Donc, je pense qu'il a aussi, il se fait plaisir quoi quand il nous parle de cuisine. Et c'est vraiment très intéressant parce que on voit à quel point toutes les histoires du deuil, du regard social effectivement qu'on porte sur les personnes qui sont des minorités sexuelles, on a des regards différents selon notre culture, selon notre éducation, selon nos a priori, et il y a vraiment cette ce Mike qui fait office d'écran où Yaichi n'arrête pas de projeter en fait ses angoisses, ses questionnements.
Il y a ça, et il y a aussi Kana qui est d'une naïveté, d'une innocence, d'une pureté incroyable.
C'est une
petite fille quoi, qui a des questions toujours, elle et ses copains, qui désarment les adultes. Et j'adore ça. J'adore quand elle va les chercher. Tu sais, c'est vraiment, elle a la plume au bout, elle les chatouille quoi. Pour ces acquis sociaux là dont vous me parlez. Allez, venez, expliquez-moi pour de vrai.
Moi, je trouve que c'est aussi une façon. Enfin, comment dire, certains peuvent dire oui, c'est la voie facile de mettre un regard comme ça aussi innocent sur ce genre de situations qui finalement sont très alambiquées parce que très construites socialement, mais c'est aussi une façon de complètement désinhiber les personnes qui aussi se posent certaines questions, parce que c'est ce que représente l'enfant. Il faut éduquer les gens à ces questions d'altérité, de façon différente de vivre le monde. À chaque fois, effectivement, elle pose des questions qui sont justes en plus.
Qui sont très très justes, et comme elle est plutôt amusante et que le personnage est plutôt bien écrit, et qu'on est dans un manga qu'on doit aussi lire pour se distraire, et elle a aussi très 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 bien endossé ce rôle amusant, ce rôle léger qui fait que tu peux continuer ta lecture et que tu t'es pas toujours en train de penser, t'es aussi dans une histoire, dans une vraie tranche de vie. Un manga très sympa. C'est pour ça que je me demande s'il est tant LGBT que ça, dans le sens où j'y vois du doux militantisme dans lequel, effectivement, on te passe des idées, mais que finalement, le manga est plus que juste des idées militantes.
Ah, moi, je pense... c'est difficile.
Pour moi, c'est bien plus large que ça.
Ah oui. Enfin, je veux dire, c'est pas... Encore une fois, je pense que c'est différent parce que le regard japonais fait que le militantisme pur et dur, tel que nous, on l'imagine, a du mal à exister là-bas. L'expressivité au Japon Et nous, on a la chance d'en profiter. Il y a toutes sortes de mangas qui sortent, toutes sortes d'idées qui nous parviennent. Mais je pense que devenir une figure publique pour défendre des idées, défendre des droits, défendre des minorités, ça peut être très compliqué en fait. Et là, ce qui est intéressant, c'est que vraiment, c'est une œuvre qui marque un tournant dans la bibliographie de Tagame. Il était déjà connu en Europe et en France notamment pour ses œuvres, mais qui étaient des œuvres pornographiques et BDSM. Vraiment, c'est destiné finalement à un public très, très particulier, très niche.
Et quand tu vois son talent pour narrer des histoires, tu te dis... c'est presque dommage en fait.
Oui, et après ça, il a décliné encore d'autres histoires un peu plus sur justement l'acceptation de devenir soi-même un homosexuel ou bien d'intégrer en fait la société japonaise à sa façon et sans pour autant être un militant comme tu dis. Parce que finalement, c'est en vivant les choses quotidiennes, en montrant qu'on est comme tout le monde, qu'on peut espérer se faire sa place. C'est une façon, moi, dont... Enfin, j'ai l'impression que c'est cette façon qu'il essaye de mettre en avant pour faire accepter ses idées.
C'est en 4 volumes. Ça s'appelle Le mari de mon frère. C'est signé Gengoro Tagame. C'est signé aux éditions Akata. Et c'est entièrement disponible en France. Manga suivant. On change encore d'univers. On passe, vous allez voir, on bondit d'univers de l'un à l'autre. On va dans tous les sens. Et là, on va vers un manga qui s'appelle All You Need Is Kill, qui est sorti aux éditions Kaze, qui est en 2 volumes, signé Takeshi Obata et Ryosuke Takeuchi, d'après le roman de Hiroshi Sakurazaka, sorti en 2014. Et vous avez peut-être entendu parler du film avec Tom Cruise, qui était sorti à peu près en même temps, qui n'était pas adapté du manga, mais adapté du roman, qui s'appelle Edge of Tomorrow. L'histoire prend place sur Terre, pour le manga. Pour le film aussi, mais je vais faire le scénario du manga. L'histoire prend place sur Terre, le monde est entré en guerre avec une civilisation extraterrestre, les Mimiques. Et pour lutter, les armées se trouvent au Japon et aux États-Unis, renforcées avec un équipement futuriste façon Gundam, un petit peu en plus petit, plus taille humaine. Et nous suivons donc Keiji Kiriya, un des récents membres de cette organisation. Et alors qu'il se retrouve au combat, il va mourir. Fin de l'histoire. Ou pas, bizarrement en fait. Il se retrouve presque instantanément dans son lit et il recommence sa journée. Et il meurt de nouveau. Et l'histoire se répète et le voici condamné à vivre éternellement le jour de sa mort. Mais est-ce que cette capacité ne cache pas quelque chose d'autre ? Bien évidemment que oui, sinon ce manga serait totalement inintéressant. Un peu plus que ça. Moi je suis très fan des boucles temporelles, c'est un peu mon dada. Et puis en plus, je trouve le profil type de manga qui marche en récit court. T'as pas besoin d'en faire des tonnes ou alors faut changer le concept quoi. Ça peut être que le concept sur le début de ton histoire, ça peut être un petit arc, mais ça marche très bien en récit court.
Bah après, comme c'est aussi l'adaptation d'un roman, en fait, y a des extraits du roman qui intercalent les chapitres du manga. Et on se rend compte que, je pense, il est très fidèle finalement à l'œuvre littéraire, alors que le film, que moi aussi j'avais bien aimé, enfin, est quand même très très différent. Il y a vraiment un regard et une façon d'avoir, d'avoir repris le concept qui est bon,
hollywoodien.
Voilà, mais qui est bien aussi, hein, mais c'est vrai que j'aurais pas dit que c'était forcément lié à la même œuvre initiale. Quoi.
Et alors, attends, parce que là, à la fin du mois de mai, sort un film d'animation avec des couleurs psychédéliques. Et quand on lit le manga, on ne les imagine pas. Avec des personnages plus jeunes, on passe aussi de personnages qui ne sont pas militaires, mais qui sont civils. On change du point de vue de personnage puisqu'on va du point de vue de Rita. C'est Edge of Tomorrow encore, mais en bien plus éloigné.
Oui, en fait, c'est une œuvre qui n'a pas de... Comment dire, les gens font un peu ce qu'ils veulent.
Et non, mais moi, la plasticité de cette œuvre, oui, voilà. De ce concept, je suis épaté. Parce qu'il y a les adaptations du roman et elles sont toutes différentes, quoi.
S'il ne dit pas de bêtises, Edge of Tomorrow 2 est prévu depuis... très longtemps au cinéma, ça n'a pas abouti encore, mais c'était le même pitch, c'était justement l'histoire du point de vue de Rita. Donc c'est marrant qu'il se refourgue la bonne idée.
En même temps, voilà, c'est un diptyque, t'as garçon-fille, bon, même s'il y a le truc de la boucle temporelle,
ils ont
c'est,
pas
c'est un peu logique.
Le début de l'invasion, enfin tu sais, il y a plein de trucs que tu peux raconter encore dans cette histoire.
Dans cet univers, c'est clair, mais ceci dit, le tome 1 est vraiment 100% sur lui. Le tome 2, on a une petite partie sur Rita.
Oui, mais
pas
petite.
Énorme, petite.
Oui.
Et donc voilà, ça...
Mais comment ils vont faire pour la rendre encore plus jeune? Je veux dire, elle est très jeune déjà.
Là. Ouais, mais là, je crois qu'on est vraiment sur du 15 ans. Hein.
Bon.
La bande-annonce est disponible avant la sortie du film, si vous voulez, si vous voulez voir. C'est les studios 4C qui s'occupent avec à la réalisation une personne qui a travaillé sur Les Enfants de la Mer. Donc là, on est aussi vraiment sur une proposition narrative et graphique qui est radicalement différente de celle qu'Obata propose dans, dans All You Need Is Kill, parce que c'est Obata quand même au dessin.
Ouais, et puis enfin, moi j'aimais bien l'idée aussi qu'il montrait un peu ce qu'il avait envie de faire avec un background SF, avec, comme tu disais, des armures, enfin, quelque chose de lourd, en fait, qui est assez éloigné, en tout cas pour moi, de ce qu'il nous montrait. Enfin, avec Death Note, il y avait toujours ces trucs très aériens, avec des ailes, avec des vues très... des choses où tu avais des tableaux complets. Et là, on est vraiment au cœur de la bataille. On est vraiment... Au plus près en fait des combats, et on voit aussi comment il est capable de mettre en scène des vraies batailles, enfin des scénographies de combats en armure, vraiment des trucs très hollywoodiens, encore une fois, je sais pas,
avec
trop.
Des plans assez serrés en effet. Il avait déjà fait de la SF mais sous pseudo. L'histoire d'un retraité qui décidait, pour passer sa retraite, de déménager en prenant un corps de cyborg, une histoire comme ça. Là, il était auteur de A à Z, hein. Peut-être pour ça qu'il a arrêté de faire des scénarios, mais qu'il ne fait plus que du dessin. Mais il y avait une histoire comme ça qui s'est sortie, je crois que c'était dans le Jump ou un des magazines du Jump, mais qui n'est jamais sorti en français. Et graphiquement, là, il faut se dire qu'à l'époque, en tant que lecteur, on sortait de Death Note, de Bakuman, et donc on attend Obata au tournant avec ce manga. On est là, c'était la com à l'époque, c'était le nouveau manga de Obata.
Deux tomes.
Comment ça, deux tomes? Non, le nouveau manga de Obata, c'est pas deux tomes, on vient de voir vendre deux tomes de Bakuman, arrêtez maintenant.
Il l'avait pas sorti direct avec l'édition collector, ou non, elle est arrivée qu'après l'édition grand format cartonné.
Je me souviens pas d'une édition grand format cartonnée non plus.
Ah bah moi j'en ai une du coup.
elle
existe.
Mais oui, c'est en deux tomes.
Mais oui, c'est pour dire que c'était un gros enjeu, tu vois, à l'époque quand c'est sorti.
Bien sûr.
Ça a vraiment fait beaucoup de bruit, et dans mon souvenir, il y avait déjà la grande édition.
Et donc au scénario, on a Ryosuke Takeuchi qui lui sort du manga Stars, qui est un manga de science-fiction également, une autre série courte d'ailleurs qui peut valoir le détour, qui galère à trouver, qui était sortie chez Panini, s'écrivait ST éperluette RS.
Oui,
Stars.
C'est moi qui les tiens, oui. Et je les ramène, c'est bon.
Et donc voilà, si vous remettez la main dessus, ça peut valoir
oui,
le coup.
Sur Kanya.
Et Ryosuke Takeuchi, c'est lui qui a fait le manga Moriarty ensuite.
Ah, bah ça c'est bien.
Changement total d'univers cette
oui.
fois.
Oui.
On sort de la SF. Et dans All You Need Is Kill, vous avez donc cette mise en scène qui est vraiment bien faite pour enchaîner les boucles. Parce que à la fin du tome 1, on est à 158 boucles.
Oui, on s'en rend pas compte, ça.
On s'en rend pas compte, mais il les nomme, hein, au bout d'un moment. Alors, il s'accélère un peu. Mais il y a une logique de lassitude qui est évidente, que tu vois arriver, dont tu as peur. T'es là en tant que lecteur, tu fais « Non, mais il va peut-être se moquer de moi au bout d'un moment. » Et en fait, c'est super bien géré. La mise en scène, la façon à chaque fois de mettre en scène ces mêmes journées qui recommencent et son attitude à lui, au bout de 158 boucles, tu peux en avoir marre. Sauf que lui en a marre, le personnage en a marre. Et c'est très bien marqué, parce que limite, il a les cernes de ces 158 boucles. Quoi.
Oui, il est dépressif en fait. Il est limite suicidaire, je sais pas. Et là où effectivement, c'est ça qui était un peu dérangeant dans le film. Je suis désolée, j'ai quand même... quand on le lit, on a quand même les deux qui se déroulent en même temps. Là, et on voit quand même que Hollywood n'a gardé que le côté fun du... Death and Retry, quoi. Et là, en fait, au bout d'un certain temps, c'est lourdingue. Et on voit bien qu'il n'y a pas que du fun. Et je pense aussi que pendant le tome 1, on joue beaucoup de ces références aux jeux vidéo, à tout ce qui fait appel à je sais pas, des séries comme Metal Gear Solid, ou des trucs très, très axés sur la guerre, la bataille. Et la stratégie, finalement, et au bout du tome 2, on va dans d'autres, ouais, contrées, quoi. Et
bah,
c'est
on
là
va dans les contrées de comment tuer ces extraterrestres dans le tome 2.
C'est une des grosses différences qu'il y a entre le film et le manga, c'est-à-dire que le manga, tu sais exactement à quel niveau de boucle tu es, et dans le film, tu ne le sais pas, mais ils en jouent aussi dans le film, parce que toi, des fois, t'as l'impression que Tom Cruise est à la 30e boucle, et il te dit, non mais en fait, il a déjà testé tous les moyens d'essayer de partir, et même là-dessus, je trouvais que t'avais deux approches originales, et forcément, Obata, il a pris la plus compliquée, celle où tu sais exactement à quelle boucle t'es, et je trouve que ça montre encore à quel point c'est un taré d'autant plus, quoi.
Parce que dans le film, il y a des moments où j'ai l'impression qu'on te dit, non, vous êtes trop con pour comprendre les boucles temporelles, on va accélérer, on a Tom Cruise, vous inquiétez pas. Ça aurait dû être Brad Pitt, il paraît.
Ah, vous êtes dur avec le
moi,
film.
Moi, j'aime bien Emily Blunt.
Il s'en prend plein la gueule, Tom Cruise, pendant tout le film, c'était
c'est
trop
vrai.
Cool.
Oui, c'était cool.
Bah, écoute, Keiji aussi, il s'en prend plein la gueule dans le manga, avec des scènes de guerre quand même qui sont bien gérées, des vrais combats, avec pourtant peu de pages. Parce qu'on est vraiment sur deux mangas de moins de 200 pages, quoi. Donc, en très peu de pages, on arrive à nous montrer les boucles, on arrive à nous faire des scènes de guerre, des scènes de bataille avec une hache géante.
Ouais, elle est très, très classe, cette hache géante. Et non, et puis, il y a tout le versant psychologique aussi qui est intéressant, mais encore une fois, ça va très, très vite. Et donc, bah ouais, Obata, il arrive à te condenser quand même plein d'informations en quelques cases, voire une case. Et hop, t'as compris le message, quoi.
Il est fort.
C'est pas pour rien qu'on le surnomme le Blake et Mortimer du manga. Parce que t'as juste deux tomes, mais la vache, le nombre d'informations qu'il y a dedans, bah comme Death Note, quoi. C'est fourni.
C'est beaucoup moins verbeux.
Oui, il y a beaucoup plus d'action, ouais. En tout cas.
All You Need Is Kill, tout est trouvable, c'est en deux tomes aux éditions Kazé. Et ça date donc, je vous le rappelle, de 2014.
Oh là là.
Plus de 10 ans maintenant. Manga suivant, on change d'univers. Cagnard, tu disais, je vais pas proposer à quelqu'un de commencer avec un manga de Kishimoto qui s'appelle Naruto et qui fait 72 volumes. Tu peux, dans ce cas-là, proposer à quelqu'un de commencer avec un manga de Kishimoto, mais Seishi Kishimoto, le frère jumeau, avec le manga Crimson Wolf, qui était sorti en France en 2014 également, aux éditions Kurokawa. Crimson Wolf, ça fait 4 tomes, ça date de 2011 au Japon. Là, on est encore plus loin dans le temps. On est au Japon dans ce manga, dans une sorte de monde alternatif contemporain, et on a Ayame qui est une jeune fille mystérieuse armée d'un poing américain en argent massif avec lequel elle se lie magiquement à Yoichi, un lycéen qui est doux et craintif comme un agneau. Elle, c'est un chaperon rouge, lui sa source de pouvoir, et ensemble ils luttent contre des démons, ils tentent de préserver leur humanité de leur mieux, et face à cette nouvelle vie, ce jeune homme va devoir apprendre à distinguer ses amis de ses ennemis pour percer les mystères de ses nouveaux pouvoirs. Manga urbain, dark fantastique, manga initiatique aussi, bien qu'il soit en 4 tomes, qui date d'il y a 15 piges quand même. Quand tu penses, tu te dis, ouais, ça a 15 ans ça. Et donc voilà, Yoichi, est-ce qu'il va apprendre à exister par lui-même? C'est ce qu'on se demande au début, puis l'objectif arrive au tome 2 finalement.
Oui, c'est ça. Finalement, le récit, il prend un petit peu son temps dans le tome 1 pour développer son univers et beaucoup son univers graphique. Donc, c'est marrant parce que tu retrouves toujours les tics de dessin de la famille Kishimoto. On peut dire maintenant, t'as l'angle fisheye. Oui. Tu as l'angle fisheye. Voilà.
À un moment donné, il y a une pleine page, je crois, dans le tome 3. Et là, j'ai fait, oh!
Mais je vous
oui,
connais.
Non, c'est vrai, c'est le jumeau, pardon.
Mais il le fait pareil quand même. Enfin, il le fait tout aussi bien même. Et c'est vrai que t'as une intrigue et une prise de décision du héros qui arrive un petit peu plus tardivement, qui arrive dans le tome 2 justement. Et je trouve que dans le tome 3 même, t'as carrément une bascule de l'état d'esprit du héros qui change beaucoup du héros qui est très pleurnichard au début du manga.
Mais dans le tome 1, il y a un truc qu'on ne retrouve pas après. Les bébés carnivores.
J'aime bien moi aussi.
Les bébés carnivores.
La scène des bébés carnivores, elle est absolument géniale. Je suis revenu dessus genre 2-3 fois. Genre, j'avance dans mon tas. Non mais je reviens. Les bébés carnivores, ils sont vraiment trop cool quand même. Et dans le tome 2, il y a un autre truc qui m'a fait beaucoup rire, c'est le pouvoir mosaïque. Je trouvais l'idée de la mosaïque, du coup on sait absolument pas ce que c'est, mais je trouvais ça stylé. Mais on voit jamais ce qu'il y a derrière.
Bah, c'est vrai que tu sens que l'auteur il a vraiment voulu se faire très plaisir sur le bestiaire des monstres, Et il va vraiment prendre son temps pour les présenter. Et comme tu dis, c'est même pas uniquement visuellement. T'as aussi cette idée que chacun de ces monstres, c'est une faiblesse de l'être humain. Et du coup, le monstre aura la forme de cette faiblesse. Moi, je vois vraiment un mec qui avait envie de dessiner des gros monstres. Et ils sont dégueulasses, quoi. Ils sont vraiment immondes. Celui de la mosaïque, il est plus malin qu'autre chose parce qu'il parle du regard des autres et tout. Mais tu peux pas t'empêcher de faire quand même... C'est dégueulasse. Là, c'est quand même ce que tu nous as trouvé encore.
Et ensuite, il développe des thématiques assez classiques dans le manga initiatique, avec le premier loup, par exemple, qui est la face cachée des adultes. Tu vois, toujours vouloir être l'exemple et à force de ça, détester les jeunes. Et donc, c'est son prof et ainsi de suite. T'as ce genre de petits trucs qui vont revenir, où chacun de nous aussi est un loup, on a plein de petites choses qu'on retrouve dans plein de mangas initiatiques.
Oui, c'est ça, vu que ça se base sur le principe que c'est des faiblesses humaines qui vont être exacerbées par la lune rouge qui va te transformer en monstre. Bah du coup, ça permet pas mal de petites histoires. Donc t'as des histoires avec des adultes au début, après tu t'enchaînes avec des récits plus adolescents. Après, il y a même un moment où ça concerne directement le personnage principal. Et c'est vraiment ça fait partie de ce système qui permet de te dépeindre une certaine réalité au Japon, celle de la manière dont on vit ensemble et dont c'est pas facile de s'assumer, quoi.
Ouais, fuck ta haine intérieure, tu vois. À un moment donné, ta haine intérieure, tu dis stop, maintenant on arrête. Et je trouvais ça bien fouillé comme manga. On est sur une série courte. On est en 4 volumes. Et t'as le concept des histoires. La ville s'appelle Grimm. Hein. On est avec ce concept des contes. On a les chaînes, les points américains, la lune rouge, leurs potes dans le cercueil, les chaînes. Enfin, y a un nombre d'éléments déployés en peu de volume, une créativité qui est quand même assez, assez délirante, je trouve.
Ouais, et qui n'est pas classique non plus dans son approche, parce que sur cette série, contrairement à séries précédentes, que ce soit Blazer Drive ou Satan 666, là, il a pas décidé forcément de faire un système de pouvoir compliqué avec des tatouages, des montées de niveau et compagnie. Il est vraiment sur quelque chose de beaucoup plus organique. Et du coup, il y a vraiment un côté où c'est une histoire qui se laisse porter par la fatalité du destin et tout, c'est ce qu'on découvre proche de la fin. Mais tu vois, la fin de cette série, quelque part, elle me rappelle évidemment Naruto, tu vois, la fin de Naruto, vraiment, avec la déesse à la fin, la lune et tout.
Bah, oui,
tu vois, il y a vraiment des... Bah, après, ils sont jumeaux en même temps, donc évidemment, ils ont les mêmes thématiques en tête, mais je trouve que ça lui va mieux de fonctionner comme ça, un petit peu au feeling, que sur le récit académique du Neketsu, on va dire.
Non, en fait, juste pour dire que je trouve qu'il y avait vraiment une richesse qui était beaucoup plus frontale dès les premiers tomes dans les mangas de cette époque-là, quoi. Et que peut-être maintenant, on essaye de faire plus équilibré. Alors que là, c'était grand buffet dès l'entrée en matière.
Je pense qu'il a mis toutes les idées qu'il pouvait avoir.
Oui, oui, oui.
Ils ont dû se prendre la tête avec son éditeur, tu sais, en train de faire un brainstorming. Et donc, il y a des contes. Ouais, mais moi, je veux mettre la lune. Ah ouais, mais la lune, c'est normal, c'est dans les contes avec les loups, ça marche. Ah ouais, mais alors du coup, les agneaux, ouais, ok. Mais il faut qu'ils se tiennent avec une chaîne. Pourquoi une chaîne? Je sais pas, c'est cool. Ok, mais ils ont des points américains. Ah ouais, des points américains, c'est dans les contes. Non, c'est pas dans les contes. Ouais, mais c'est cool quand même, on y va. Moi, j'imagine les brainstorms comme ça de taré qui devait se faire avec son éditeur, avec son équipe, avec ses assistants. Mais ça devait être très, 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 très amusant quand même à imaginer. Surtout que, voilà, les loups, l'agneau, le chaperon rouge, de base, on connaît la chanson. J'ai l'impression de d'avoir vu utiliser ces concepts-là avec aussi la dualité, les personnages qui sont en binôme. Il y a presque un côté Pokémon, tu vois, à un moment donné, où c'est vas-y, agneau, attaque.
Oui, complètement. Mais tu vois, c'est peut-être le seul bémol que je trouve au titre, c'est il a un peu trop forcé le côté petit chaperon rouge pour l'appliquer à son scénario. Et comme tu dis, il y a des moments où, tu sais, toi, tu pars de base, oui, chaperon rouge, grand-mère, loup-garou, agneau. Mais il n'y a pas d'agneau dans le petit chaperon rouge. Oui, mais bon, Là, j'en ai besoin, s'il te plaît, donc vas-y, débloque-moi l'agneau. C'est pas une métaphore, hein, débloque-moi l'agneau. Et t'as le coup de poing américain après.
Une contre-pétrie.
Je trouve qu'il a un peu... il a poussé les murs, tu vois. Il a poussé les murs pour... alors que son récit, il est bien comme ça. Il a pas besoin forcément, je trouve, d'être référencé au conte de Grimm ou autre. Bon, même si la conclusion du titre est quand même directement liée à l'univers des contes et du coup, ça retombe sur ses pieds. Mais c'est peut-être les petits moments où ça me perdait un peu, où j'étais... Arrête d'en rajouter, c'est bon là maintenant, ils ont qu'à se battre. Et arrête de nous faire des liens agneau, loup, lune.
Mais c'est super généreux et ça, je pense que c'est graphiquement aussi que ça l'intéressait. Et j'ai vu plein de petits dessins à des moments où tu vois vraiment un loup qui est déguisé en agneau, tu sais, qui défait un zip pour sortir de l'agneau. À chaque fois, je trouvais ça bien dessiné quand il en jouait.
Ah bah c'est à chaque fois c'est des bonnes idées graphiques qui met en scène de la même manière que les monstres dont on a déjà parlé. Tu sens que c'est vraiment un récit graphiquement il s'est fait plaisir quoi, vraiment il a tout donné dedans. En plus je trouve que les combats ils sont assez lisibles alors que t'as quand même la plupart du temps des monstres qui sont énormes et donc c'est toujours compliqué un petit peu pour le découpage et pour les différents pouvoirs.
Quand t'as le personnage avec la mosaïque.
Oui, bah là, c'est encore pire. Ou même, même son chaperon rouge qui a des cheveux en main, en patate, je sais pas trop. Enfin, tu sais, c'est dur à gérer ça en combat, en mise en scène. Et je trouve qu'il s'en tire vachement bien, c'est lisible, c'est fluide et surtout vraiment, tu commences à sentir de l'émotion. Moi, en tout cas, à partir du tome 2, là, j'ai vraiment été impliqué dans le récit. Et je trouve que la fin, elle est pas rushée spécialement. J'ai eu tout ce qu'il me fallait, moi.
Ouais, je la trouve pas rushée non plus. Et effectivement, heureusement qu'il y a ce truc dans le tome 2 pour lui donner son objectif qui en plus se boucle d'une certaine manière. Je vous dis pas comment c'est conclu, mais je veux dire c'est cohérent, ça tout match et ça montre une certaine maîtrise. Et j'avais quand même l'impression qu'à la fin du tome 3 il savait qu'il avait plus qu'un tome.
Oui, tu sens. C'est pour ça que je disais que c'est pas rushé. Je pense que s'il avait un truc, c'est peut-être que son personnage principal dans les deux premiers tomes, il l'a un peu trop laissé comme spectateur de ce qui se passait. Donc évidemment, la place du lecteur à ce niveau-là. Et à partir de, comme tu dis, du tome 2, début du tome 3, là, il devient vraiment acteur avec son objectif. Et en plus, c'est un objectif que je trouve assez mignon parce que même, tu sais, dans les Neketsu, souvent les sentiments amoureux, ils sont toujours mis un peu en dessous, on dit pas exactement qu'on parle d'amour, alors que là c'est très franc de ce côté-là, tu vois, voilà, il doit sauver l'amour de sa vie, lui qui était une grosse victime et compagnie, et il doit trouver le courage de dire ça aussi. Et du coup, même de ce point de vue-là, je trouve que le récit il est très franc, quoi.
En revanche, je le vois pas Neketsu du tout, je vois personne qui brûle de passion.
Non, c'est vrai qu'il y a pas forcément la
passion
flamme
pour le point américain.
Ouais, mais c'est vrai qu'il y a
limite elle,
s'enflamme.
Mais elle est chaperon rouge, donc mais elle s'enflamme pas, elle est très
bah
très
si.
Neutre.
En vrai, chaque humain qui se transforme en monstre, ouais. Il est en full.
Et il y a beaucoup de, c'est très classique en soi, hein, mais beaucoup de violences ordinaires aussi qui sont évoquées, qui fait de lui aussi un spectateur au début, puisque c'est un personnage qui se fait un peu martyriser à l'école.
Oui,
donc,
complètement.
Forcément, ça fait pas de lui un driver comme Naruto pouvait driver son récit, quoi.
Et puis même dans la relation avec son loup, elle le victime, elle le martyrise même au début. C'est pas que c'est son esclave, mais on n'est pas loin.
Bah, c'est son
de...
agneau, quoi. Elle est loup, c'est son
mais
agneau.
Après,
enfin, non, c'est
définis ce que tu veux
que ça,
par agneau, mais c'est un peu genre quand même, elle se sert beaucoup de lui, alors qu'on est plus sur une relation d'échange dans la suite du récit.
Mais c'est marrant, en tout cas, de voir ce manga et le héros de ce manga avec des yeux de 2026. Avec il y a 15 ans, on l'aurait pas analysé de la même manière.
Oui, et à l'heure actuelle, t'en ferais pas un comme ça. Tu ferais pas ton héros comme ça. Tu l'affinerais un petit peu plus parce que là, tu sens qu'il est dégrossi, ce personnage. Et encore une fois, tu sens que c'est les monstres et que c'est l'univers qui intéresse Kishimoto. Son personnage principal, il a un peu écrit avec des gros traits bien gras et je pense que si ça devait sortir en 2026, il y aurait un peu plus de finesse dans son comportement.
Bah, on aurait le personnage à partir du tome 3, quoi.
Oui, c'est ça. Ça nous éviterait toutes les blagues de mauvais goût sur dis donc j'ai touché tes fesses et c'est moelleux et compagnie. Tu vois, ça je pense qu'en 2026 on éviterait peut-être un peu.
Ça, ça et encore c'est même pas lui qui le, c'est pas le personnage principal ça.
Non, c'est pas lui, mais c'est un type d'humour que tu sais qui est déjà maintenant un peu
daté.
Vieux jeu, tu vois, où t'es là genre oh, c'était pas nécessaire hein, vraiment.
Crimson Wolf de Seishi Kishimoto, c'est sorti aux éditions Kurokawa en 2014 et ça fait 4 tomes. La fin avec Chasse aux cadavres dans cette émission aux éditions Saka Casterman. Chasse aux cadavres signé Osui Yamazaki qui avait fait Kurosagi Livraison de cadavres il y a très longtemps. Manga en 4 tomes qui sortit en 2022 au Japon et en 2023 en France. En quelques mots, le pitch, je vous laisserai compléter. On est dans les vacances d'été et un groupe de collégiens se lance en cachette sur les traces d'une camarade disparue 2 ans auparavant. Et à mesure que l'horreur refait surface, ils se rendent compte qu'absolument personne n'a intérêt à ce que ce passé soit remué.
Oui, c'est une histoire moi que je trouve vraiment intéressante parce que ça pourrait être une très bonne base de téléfilm ou de mini-série télé parce que t'as vraiment une espèce de sous couvert d'aventures de jeunes enfants qui veulent profiter de leurs vacances, veulent retrouver leurs amis, qui ont cette vraiment cette innocence de et cette foi de bien faire d'être en connexion avec leurs émotions. T'as l'univers des adultes avec toute sa dureté, toutes ses contradictions et tous ses faux semblants, et c'est intéressant parce que en plus tout le décor est très très beau, c'est une petite ville japonaise mais au cœur des montagnes, et il y a une grande partie de l'histoire qui est comme ça coupée de la civilisation et où ils sont vraiment presque en mode survie, et je me dis ça pourrait être un très bon point de départ pour une série comme ça télévisuelle quoi.
Moi je dois avouer que j'adore ce titre, on en avait déjà parlé au moment de la sortie du tome 1.
Tu l'appelais Chasseur de cadavres.
Chasseur de cadavres.
Ah. Mais c'est à cause du titre précédent de l'auteur aussi, Kurosagi, les cadavres.
Ah oui, c'est vrai que c'est le même auteur. J'ai encore oublié, super. Je suis dans une boucle temporelle d'oubli, j'adore ma vie.
Sachant que je l'ai dit il y a 2 minutes. Hein.
C'est une boucle très courte. Beyond the Infinite.
Boucle 52.
Du coup, vraiment, ouais, c'est un excellent thriller. Il y a un truc qu'on avait déjà dit, mais qui tient pendant les 4 tomes, c'est vraiment l'originalité du point de vue de la narration. Là, on est vraiment sur une histoire d'adulte, un thriller où on court après un tueur en série, littéralement, sauf que c'est raconté à la hauteur d'enfant. Et je trouve que ce point de vue-là, il est hyper original. Donc, tu as ce mélange entre le côté enfantin, très Goonies, les vacances, le vélo, on y va. Et en même temps, il y a une violence qui est très présente dans le titre. Il y a une aura malheureuse qui plane au-dessus d'eux. Et je trouve que le mix fonctionne vraiment parfaitement bien dans le sens, c'est pas non plus je veux pas que les lecteurs se disent que les enfants partent à l'aventure avec une gourde d'eau et on voit ce qui se passe si on retrouve notre ami disparu depuis 2 ans. C'est pas ça en fait, ils sont très bien préparés, ils veulent vraiment la retrouver et ils ont fait les recherches nécessaires. C'est un plan qu'ils ont préparé en amont, et même ça je trouve ça cool parce que sous ces apparences un peu infantile, mignonne, tu vois. En fait, ils sont hyper préparés. Et du coup, le héros de ce petit groupe, il est fan de pylônes. Et rien que ce détail, je trouve que c'est hyper intéressant parce que je m'étais jamais posé la question. Mais évidemment qu'il y a des gens qui sont fans de pylônes électriques et qui savent les reconnaître des uns des autres. Et rien que ce petit truc, ça m'a donné un niveau de crédibilité, d'humanité en plus, tu vois, où je me suis dit, ah ouais, en vrai, l'auteur, il y a grave moyen qu'il soit fan de pylônes, tu vois, vu à quel point il a poussé le délire. Et voilà, c'est des petits détails comme ça qui font que je trouve que c'est un récit qui fonctionne très bien.
Oui, parce qu'on a tous les éléments que tu viens de citer qui, pour moi, font vraiment les ingrédients d'un bon polar. Donc, les vacances avec les enfants qui partent à vélo, la journaliste qui commence à fourrer son nez là où il faut pas, les flics qui sont un peu tous bizarres ou qui ont tous l'air de pas dire vraiment ce qu'ils savent.
Tous les flics sont suspects, de toute façon.
Ou même tous les adultes, en général. Et il y a aussi, comme tu disais, on sent que derrière les apparences, il y a encore une fois des gens qui tirent les ficelles, qui tirent profit de cette situation malaisante où les choses ne sont pas dites, où les affaires sont cachées, truquées. On se rend compte effectivement que l'innocence des enfants, elle est en train de batailler en fait contre ces éléments très noirs qui font leur quotidien, qui font leur environnement. Et je trouve que c'est vrai que le truc des pylônes, c'est marrant parce que ça lui permet d'intégrer aussi quelque chose que on n'a pas évoqué jusqu'à présent parce que les mangas étaient peut-être un peu plus vieux, mais il y a cette intégration des réseaux sociaux, de l'utilisation des téléphones portables, il y a une communauté effectivement de gens qui sont fans de pylônes et qui vont suivre par l'intermédiaire d'un réseau social la progression en fait des enfants à travers la montagne, et certains ont très bien compris quel était l'objectif, même s'ils ne l'ont pas dit clairement. Et c'est ça qui est difficile, c'est que très vite, les éléments anormaux en fait vont vraiment ressurgir les uns après les autres, parce que donc on apprend que oui, la petite fille, elle a disparu depuis 2 ans. Et tu te dis, waouh, effectivement, c'est le mot cadavre dans le titre, il n'est pas là pour rien. Et petit à petit, il y a aussi toutes ces dossiers qui sont scandaleux sur des rites funéraires très violents, très barbares presque. Et là, il y a la violence vraiment Enfin, moi, j'ai trouvé choquante parce qu'elle était quand même assez inattendue.
Oui, t'as raison, ça arrive de manière très crue en fait. Et malgré cette ambiance un petit peu de bonne entente du début du récit, très vite, le récit sombre du côté, mais vraiment dark de l'histoire. Et comme tu disais, je pense que c'est un titre qu'on peut aussi séparer en deux parties comme le précédent. Et dès que t'arrives dans la deuxième partie, comme tu disais, lui, on est à la limite du survival. Moi, j'ai même vu des ressemblances avec le récit de redneck américain dans la forêt. Et tu vois, dans cette deuxième partie, ça m'a même évoqué des titres comme Gannibal par exemple, ou My Home Hero dans son deuxième arc, où t'as vraiment ce truc de là c'est de la survie, c'est compliqué, sachant d'autant plus que c'est des enfants qui doivent survivre contre des adultes très énervés, on va dire. Et tout cet effet-là, en fait, il est accentué par le personnage du Tengu, qui est un petit peu le tueur qu'on recherche. Et c'est marrant parce que même là-dessus, t'as une vraie recherche. Le Tengu, il est mis en scène un peu comme un croque-mitaine à la poursuite d'enfants. Du coup, c'est une symbolique qui est hyper forte, tu sais, entre réalité et cauchemar. Et honnêtement, le Tengu, la manière dont il parle, dont il se comporte et compagnie, il pourrait clairement avoir sa place dans Deliverance ou dans Preacher, quoi. S'il est derrière tes côtes, tu veux pas qu'il te tue parce que tu sais que il va pas que te tuer, il va faire autre chose avec ton cadavre derrière. Et c'est vraiment ce truc du redneck de on est revenu à la lie de l'humanité vraiment, où tout est horrible. Et du coup, c'est un récit qui baigne vraiment dans différentes ambiances un peu légères, et d'un coup bam, on va tomber sur le survival. D'un coup, c'est un équilibre qui est hyper difficile à maîtriser. Et lui, sur les 4 tomes, je trouve qu'il s'en tire vraiment hyper bien.
Ouais, et ben moi, c'est ça. Je dirais que c'est vraiment un bon produit. Alors, je mets des guillemets, c'est pas du tout quelque chose, comment dire, de dévalorisant, parce que c'est, encore une fois, en quelques tomes, en 4 tomes, une série qui est bien ficelée et qui brasse vraiment des thématiques très larges. Et comme tu dis, on a un peu le trio de base qui sont les piliers des shonen, donc l'amitié, de l'effort, de la victoire. Là, je mettrais du courage, parce que les enfants sont vraiment, ils ont une espèce de carapace de confiance et de courage, et ils sont tous les 4 comme ça lancés dans un truc où très vite ils comprennent que ça va pas le faire. Ils sont tout petits face à cette nature, nature avec un grand N, et la nature humaine, n'en parlons pas. Mais là, il y a vraiment la question dans les thématiques qui sont abordées, la thématique des violences faites aux enfants, de la concentration des pouvoirs par certaines élites dans certaines campagnes, dans certains qu'on peut retrouver dans quel que soit le pays. Il y a des gens très puissants qui vont concentrer beaucoup trop de pouvoir, qui vont perdre les pédales à cause de ça. Et je trouve que il y a cette perception de l'élite qui peut devenir déviante, immorale, et le questionnement sur la violence humaine, qu'est-ce qui fait basculer, parce que est-ce que c'est le poids des traditions qui est symbolisé donc par ce Tengu auquel les générations précédentes faisaient des offrandes en cas de famine, en cas de coup dur, de catastrophe naturelle, mais qui là est repris pour en faire quelque chose d'autant plus horrifique, parce que pas du tout dicté en fait par des instincts de survie. Vraiment, c'est juste de la, enfin, de l'ignominie, quoi. Et je trouve que c'est très, très bien parce que, encore une fois, bah, en quatre tomes, t'as le fin mot de l'histoire, tu peux souffler à la fin et te dire, l'histoire se termine. Plutôt bien.
Ça s'appelle donc Chasse.
Chasseur, au... chasseur.
Non, toi tu l'appelais chasseur, mais le vrai nom. Ça s'appelle donc Chasse au cadavre, signé Osui Yamasaki. C'est en 4 volumes et c'est aux éditions Saka Casterman. Merci à tous d'avoir écouté cette émission. Voilà maintenant, avec entre les mains 5 idées de séries courtes que vous avez peut-être ratées à l'époque, il y a 35 ans, quand c'est sorti, ou plus récemment, quand vous les avez vues en occasion, en disant tiens, je connais pas ça. Et bah voilà, maintenant vous savez ce que c'est. Ça s'appelle donc Dédale, c'était le premier manga dont on a parlé. Le mari de mon frère, c'était le deuxième. All You Need Is Kill en troisième. Crimson Wolf en quatrième. Et donc Chasse au cadavre à l'instant. Merci à tous d'avoir écouté cette émission. Si vous avez d'autres séries courtes que beaucoup de gens ont ratées, on ne sait pas pourquoi.
Ah, c'était dur de choisir un.
On en avait beaucoup. Surtout qu'on a dit effectivement 5 tomes à Julie et sa et première proposition, ça a été mais 6, ça passe. Bah non, si on dit 5.
C'est dommage, il y a tellement de bonnes séries qui en 6 tomes.
Qu'on n'a pas réussi à parler d'une série qui me tenait beaucoup à cœur qui s'appelle Heads. Du coup, c'est un petit appel aux auditeurs. Si certains connaissent Heads, n'hésitez pas à en parler sur Discord.
Merci à tous d'avoir écouté cette émission et on se retrouve la semaine prochaine. Ciao, salut.
Merci.
Salut.